La parole des contes avec Anne Wong.
Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour et bienvenue à La parole des contes. Et nous continuons sur la trajectoire des dragons. Ça n'arrête pas, les dragons sont par dizaines, par centaines et par milliers. Par-delà les collines, les sept collines, les sept mers et les sept montagnes, partout dans le monde, il y a des dragons. Donc nous, cette fois-ci, nous irons dans une histoire avec un dragon mauresque sur Barcelone, Cordoue. Et ensuite, nous irons voir un dragon, mais cette fois, dans un recueil chinois, c'est un conte indien, et cette fois-là, ce ne sera pas un combat ordinaire, il n'y aura pas un preux chevalier ou une fille extraordinaire qui va combattre le dragon. Là, ce seront des centaines, des milliers de petits singes. Étonnant, non? Et l'objectif n'est pas la langue, la tête, mais autre chose. Donc, place à la musique pour nous faire entrer dans l'univers des morts où il y avait donc des personnes qui vivaient à Cordoue et ça allait même jusqu'à Barcelone. C'était au temps où les morts régnaient à Cordoue et dans le reste de l'Espagne. À Barcelone, il y avait un roi chrétien aimé de ses sujets. Il avait une fille. Très belle, très admirée. Et à cette époque, la terre était ravagée par un monstre ailé à tête de serpent. Il ressemblait à un taureau gigantesque avec des cornes redoutables. Ses yeux lançaient des flammes et de sa gueule aux longues dents sortaient d'insupportables fumées. Son corps était couvert d'écailles et nulle arme ne pouvait les transpercer. Partout où le monstre passait, il semait la terreur, brisant les maisons, dévorant les bestiaux et parfois même les femmes et les enfants. Il nageait aussi à la surface des eaux, poursuivant les navires comme en jouant et dévorant les marins qu'il aimait par-dessus tout. À peine apparaissait-il sur terre comme sur mer que tout le monde fuyait. Il était si rapide avec ses ailes et ses nageoires qu'aucune proie n'avait la chance de lui échapper. Un matin d'avril, un guetteur annonça aux habitants de Barcelone que le dragon, poussé par le vent d'est, filait droit sur la côte. Ordre fut de fermer les portes de la ville. Toutes les cloches de la cathédrale sonnèrent en même temps dans l'espoir de faire fuir le monstre. L'animal eut peur de tout ce tintamarre et se sauva vers le nord, dans la verte campagne où il fit de grands festins. Devant tous ces ravages, les pauvres campagnards s'enfuirent et vinrent supplier qu'on leur ouvre les portes de la ville où ils seraient en sécurité. Le roi aimait tous ses sujets. Il ordonna qu'on levât la herse et les pauvres gens entrèrent en rampant. Puis la herse se fut rabaissée dans un grand grincement de fer. Le monstre, voyant la ville si bien gardée, l'attaqua par les airs. Il prit son vol et plana sur Barcelone. Une nuée de flèches le dissuada d'atterrir. On reprit courage. Le monstre opiniâtre rôdait toujours aux alentours. Tous ceux qui s'aventuraient sur les chemins étaient dévorés. Le temps passait. Commençait à manquer. On délégua quelques hommes courageux pour aller se réapprovisionner. Ils ne revinrent pas. Le monstre, pendant la nuit, faisait entendre des rugissements sinistres. Il s'était installé dans une proche caverne et guettait tous les messagers, n'en faisant qu'une bouchée. L'angoisse devenait de plus en plus douloureuse. Et des femmes en larmes, avec leurs enfants dans les bras, vinrent supplier le roi de lever une armée et de combattre le dragon. Les meilleurs soldats engagèrent la lutte. Aucune flèche, aucune épée ne fit du mal au monstre. Pas plus que les pierres lancées violemment ou même l'huile bouillante déversée à flots. La famine était là. Dans Barcelone, des gens en mouraient chaque jour. Ceux qui avaient quelque force allaient provoquer le dragon afin de le fatiguer et presque tous étaient écrasés. Désormais, plus personne ne voulait sortir. On tirait au sort ceux qui devaient aller l'affronter. Un jour, la princesse fut désignée. Le roi refusa de se séparer de sa fille et elle le supplia avec ardeur. Elle partit combattre le monstre. Aux premières lueurs du jour, la princesse, vêtue d'une grande tunique blanche et la taille serrée par une large ceinture bleue, franchit la porte de la ville et s'avança vers le dragon. Les longs cheveux de la jeune princesse flottaient au vent. Elle se dirigea vers un bois d'eucalyptus. Depuis les remparts, les gens de Barcelone la suivaient des yeux, en formant le vœu qu'elle réussisse. Bientôt, on ne la vit plus. Juste au moment où elle traversait le bois, la princesse vit s'avancer vers elle. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, vous avez une idée? Eh bien non, ce n'est pas le dragon. C'est un beau chevalier. Et alors, elle lui demande: « Où allez-vous, Seigneur, de si bon matin? Ne savez-vous pas qu'un dragon habite ce pays ?»«
Je ne l'ignore pas, mademoiselle, et je suis ici pour vous défendre. »«
Mais vous risquez votre vie aussi, chevalier. Je vous demande de me laisser à mon sort. »«
En aucune manière. Vous allez rester ici, dans ce bois. » Et c'est moi qui vais attaquer le monstre.
Oh non, 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 non!
Et comme le chevalier s'avançait maintenant vers la caverne du dragon, la princesse se rappela:
Oh, dites-moi au moins votre nom!
Alors vous avez une idée? Eh bien, ce brave chevalier s'appelle Georges!
Et Georges lança son cheval contre le monstre, qui s'éveillait à peine. Un énorme rugissement fit trembler la terre, des flammes sortirent des yeux et de la gueule du monstre, et la lutte commença.
Tantôt le cavalier et sa monture disparaissaient sous le monstre, tantôt d'un habile coup de rein, Georges s'élevait au-dessus du dragon pour tenter de le frapper. La bête hideuse rugissait sans cesse. Le combat dura toute la journée.
dans des tourbillons de poussière. Le soir, les combattants étaient épuisés. Pourtant, Georges eut encore la force d'enfoncer sa lance entre deux écailles du monstre. Le dragon, vaincu, poussa un terrible cri et s'affala haletant sur le sol. Georges s'approcha de la jeune fille et la pria de lui donner sa ceinture bleue. Mais la princesse, étonnée, la lui tendit. Le chevalier fit un nœud coulant avec la ceinture. De ce nœud coulant, il coinça le cou du monstre et tendit l'autre bout de la ceinture bleue à la princesse.
« Allez, lui dit-il, conduisez votre ennemi à votre père. Vous êtes délivré à tout jamais. »
D'un saut, Georges enfourcha son cheval blanc et partit au grand galop. Et il disparut. La princesse le vit s'éloigner, sans pouvoir dire quoi que ce soit. Alors, à nouveau seule, elle tira sur la ceinture et entraîna le dragon blessé. Il n'est pas encore mort, c'est embêtant quand même. Elle se présenta à la porte de Barcelone sous les acclamations de la foule. Elle se jeta dans les bras de son père en sanglotant. Le dragon vécut encore misérablement quelques jours et finit par mourir dans un fossé sous l'œil attentif des Barcelonais. Et c'est ainsi que se termine cette histoire de dragon. Merci, chères auditrices et chers auditeurs, de l'avoir écoutée. Et notre charmante technicienne, Léonie, va nous envoyer la musique suivante, plutôt chinoise, afin de nous faire entrer dans des atmosphères plus douces, plus raffiné. Cette histoire est à l'intérieur d'un recueil intitulé Les Contes du Mandarin. Donc c'est un mandarin chinois par conséquent qui raconte les différentes histoires du recueil. Et l'une des histoires s'intitule L'éventail magique. Et là, nous allons glisser un peu plus loin qu'en Chine, jusqu'en Inde, pour être parmi le roi du Bengale. Et ce roi avait 6 filles. Elles étaient belles. Et la plus jeune l'était encore davantage. Elle n'aimait pas l'agitation du palais de son père. Aussi passait-elle son temps accoudée à la fenêtre de sa chambre, à regarder les bateaux sur le fleuve. Le roi décida de faire un grand voyage. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas vu ses frères qui vivaient loin du Bengale. Avant de s'en aller sur la mer, il appela ses filles qu'il aimait très tendrement, encore davantage depuis que sa femme était morte. « Que nous voulez-vous, leur dit-il, que je vous rapporte de mon voyage? Je vous promets de chercher tout ce que vous me demanderez. » La première demanda une robe de soleil, la seconde une robe de lune, la troisième un manteau de nuit, la quatrième une ceinture d'eau, la cinquième une couronne de feu. Le roi s'en allait quand il vit que sa plus jeune fille n'était pas là. Il appela un serviteur et l'envoya auprès de sa cadette connaître son souhait. La princesse était enfermée dans sa chambre.
Elle ne voulait pas être dérangée.
Le serviteur attendit devant la porte. Déjà, les oiseaux s'étaient tus. La nuit approchait. L'envoyé du roi décida qu'il était grand temps de frapper à la porte. Il trouva la jeune fille penchée à sa fenêtre. Elle regardait le fleuve.
« Votre père, mademoiselle, est sur le point de partir pour un long voyage. Il veut connaître ce que vous aimeriez qu'il vous rapporte. »
La princesse regardait toujours par la fenêtre et restait silencieuse. Le serviteur du roi renouvela sa demande. La jeune fille se taisait toujours. Pour la troisième fois, le serviteur l'interrogea.
Alors elle répondit « Sabre !»
Ce qui veut dire en bengali « Attends ». Le serviteur ne comprit pas sa réponse et partit en hâte auprès du roi et lui dit « Votre fille aimerait que vous lui rapportiez du sabre !»
Le roi fut surpris, il ne comprit pas non plus ce que voulait dire sa fille.
Toutefois, le roi pensa qu'au cours de son voyage, il parviendrait bien à trouver cet objet mystérieux. Le lendemain matin, le roi du Bengale prit la mer. Les bateaux étaient si nombreux et leurs voiles si serrées que l'eau en était devenue toute blanche. Il alla d'abord chez son frère aîné, qui était roi de Perse. Là, il chassa le lion, le temps que mirent les plus habiles orfèvres de la ville d'Ispahan à broder une robe de soleil. Puis il passa chez son second frère, qui était roi des Afghans. Là, sur la montagne du Panchir, il chassa la gazelle, le temps que mirent les tailleurs à coudre une robe de lune. Il se rendit ensuite dans les pays brûlants d'Afrique, dont son troisième frère était roi. Aux sources du Nil, il assista à des combats de crocodiles, le temps qu'il fallut aux tisserands pour filer un manteau de nuit. Puis il gagna le Cachemire, où demeurait son quatrième frère. Celui-ci vivait dans un palais de porcelaine. Le temps d'en visiter les 1000 pièces, dont chacune était d'un bleu différent, suffit à fabriquer une ceinture d'eau. Le roi souhaita enfin passer par la Chine. Son cinquième frère l'accueillit dans sa capitale. Ce ne furent que feux d'artifice, lâchés de ballons et de cerfs-volants. Il demeura là 2 lunes. À la troisième, les joailliers de la cour lui remirent une couronne de feu. Nul ne pouvait la regarder sans fermer les yeux. Il y avait fort longtemps maintenant que le roi du Bengale avait quitté sa terre et ses filles, il décida de rentrer dans son royaume. Il arriva au port où l'attendait le navire royal et toute la flotte. Il emportait avec lui dans des coffres de camphrier la robe de soleil, la robe de lune, le manteau de nuit, la ceinture d'eau et la couronne de feu. À l'aube, on leva les voiles et les bateaux gagnèrent le large. Cela faisait un jour et une nuit que les navires, poussés par un bon vent du nord, fendaient la mer, quand, soudain, le bateau du roi n'avança plus. Les autres vaisseaux disparurent bientôt à l'horizon. L'eau, autour du vaisseau du roi, devenait de plus en plus lourde. Malgré tous les efforts des marins, le vaisseau demeurait immobile. La mer s'était changée en pierre. Le soir tombait. Pour tuer le temps, un marin chanta une vieille complainte. Il était question de jeunes filles et de promesses non tenues. Le roi se souvint alors qu'il avait oublié le cadeau réclamé par Saint Benjamin. Au matin, il envoya sur la mer de Pierre deux serviteurs avec l'ordre de fouiller tous les marchés de la Chine. Ils devaient se procurer du sabre. Les deux hommes interrogèrent tous les marchands qu'ils purent trouver jusqu'au plus petit vendeur de riz. Ils allèrent même dans les cimetières tenter de faire parler les morts. Rien n'y fit. Personne ne savait ce que cela pouvait être. Une vieille femme qui les avait entendus demander à plusieurs reprises où ils pourraient se procurer du sabre, s'approcha d'eux et leur dit je connais une île lointaine où règne un roi, dont le fils se nomme Sabre. Allez le trouver, il vous aidera peut-être. » Les serviteurs se mirent aussitôt en route pour atteindre l'île du prince Sabre. Leur voyage dura 3 fois 30 jours. Ils franchirent plusieurs mers. La dernière étincelait au soleil. Elle était pleine de poissons d'argent. Ils arrivèrent enfin dans l'île qu'ils cherchaient. Le roi les reçut, écouta attentivement leur histoire. Quand ils eurent terminé leur récit, le roi se leva et prit dans une armoire une boîte de laque rouge comme du sang. Des caractères étaient peints sur le couvercle. Il l'attendit aux serviteurs du roi du Bengale et leur dit « Remettez cette boîte à votre maître. Il la donnera à sa fille. Mais elle doit être seule pour l'ouvrir et à l'abri de tout regard. » Les serviteurs s'en retournèrent, parcoururent terre et eau jusqu'à la mer qui était toujours de pierre. Ils montèrent à bord du vaisseau royal et dès que le roi eut entre les mains la boîte de laque, l'eau redevint haut et le vent se leva. Les voiles furent hissées et bientôt le navire cingla vers le Bengale. Le roi regardait souvent la boîte de laque. Elle était légère comme une feuille. Il ne connaissait pas les caractères tracés à l'encre d'or sur son couvercle. Et il avait très envie de l'ouvrir. Et chaque fois que sa main s'en approchait, elle devenait comme de la pierre. Le voyage de retour fut long, mais jamais le vent ne manqua. Enfin, le vaisseau aborda aux côtes familières. Le roi fit porter au palais les coffres qui contenaient les cadeaux de ses filles. À chacune d'elles, il remit ce qu'elle avait réclamé. Quand arriva le tour de la cadette, il lui donna la boîte de laque. La princesse quitta aussitôt la pièce. Quand elle fut seule, elle s'approcha de la boîte qu'elle avait posée sur son lit et l'ouvrit. Elle y découvrit un minuscule éventail aussi blanc que la neige la plus proche. Elle le prit, l'examina et se résolut enfin à le déplier. Et aussitôt, chers auditeurs, aussitôt un homme beau comme le jour nouveau se tint devant elle et s'inclina en lui disant « Oh belle princesse, voici longtemps que je vous attendais. » Comme elle le regardait avec étonnement, sans rien répondre, le jeune homme reprit « Mon nom est Sabre.
Mon père règne sur une île lointaine. Chaque fois que vous souhaiterez me voir, il vous suffira d'ouvrir cet éventail et je serai près de vous. Quand il sera l'heure de nous quitter, il vous suffira de le fermer. Les jours passèrent. Dès que la nuit venait, la jeune princesse sortait la boîte de laque, prenait son éventail et d'un coup sec le dépliait. Aussitôt, le prince Sabre était là devant elle. Les deux jeunes gens se quittaient à l'aube. Le temps vint où ils décidèrent de se marier. La princesse en avertit son père. On prépara les noces. La fête dura 3 jours. Les 5 sœurs de la princesse étaient jalouses du bonheur de leur cadette. Aussi décidèrent-elles de se venger. Elles réclamèrent de préparer elles-mêmes le lit des époux. Quand vint le 3e soir, elles se rendirent dans la chambre nuptiale et répandirent entre les draps du verre pilé aussi fin que poudre. À l'heure de se coucher, le prince Sabre entra le premier dans le lit. Les draps aussitôt se couvrirent de sang. Le verre répandu par les sœurs jalouses avait entaillé le corps du prince. Sa jeune femme en larmes ne savait que faire pour lui venir en aide. D'une voix faible, il la pria de prendre la boîte où se trouvait l'éventail, de l'ouvrir, puis de le fermer, afin qu'il puisse regagner la maison de son père. Désespérée, elle lui obéit, ouvrant et fermant, comme elle l'avait fait si souvent, l'éventail couleur de neige. À peine l'eut-elle refermé que le prince Sabre disparut. Elle ignorait tout de la perfidie de ses sœurs et ne cessa les jours qui suivirent d'ouvrir et de fermer l'éventail, dans l'espoir que son prince apparaîtrait. Le prince ne reparut pas. Alors la princesse décida de partir à sa recherche. Elle revêtit la robe d'un moine mendiant et se mit en route. Elle marcha 3 fois le temps que mettent 9 lunes à être rondes. Elle traversa des déserts et des forêts impénétrables, franchit des montagnes escarpées, traversa des vallées noires comme la nuit la plus noire. Un soir qu'elle s'était couchée sous un arbre pour prendre un peu de repos, voici que 2 perroquets se mirent à jacasser. Elle tendit l'oreille et comprit que les perroquets parlaient du prince Sabre.
Le prince est bien malade. Il faudrait lui frotter tout le corps avec la graisse qui entoure le cœur du dragon qui vit dans la grotte des tempêtes. Sinon, clou clou clou, il ne tardera pas à mourir.
La princesse avait tout entendu. Elle n'hésita pas. Elle partit à la recherche du dragon. Tandis qu'elle avançait péniblement à travers d'épais bambous, elle vit un singe prisonnier d'un piège. Épuisé d'avoir voulu se dégager du filet qui le retenait, il allait mourir. La princesse s'arrêta et le délivra. Le prince la remercia et lui offrit un poil de son oreille en lui disant
« Oh, si tu es dans l'embarras, frotte ce poil dans tes mains et je t'aiderai !»
La princesse poursuivit sa route. Devant elle, elle vit soudain une grotte. Zébrée d'éclairs, elle semblait faite de vagues déchaînées. Elle s'approcha de l'entrée, franchit un rideau d'eau, pénétra dans un antre aussi sombre que le fond de la mer. Elle entendit... À la lueur du feu qu'il crachait, la princesse découvrit le monstre. Elle se saisit du poil du singe et le frotta. 100 de singes apparurent. Ils se ruèrent sur le dragon comme un essaim de mouches et lui crevèrent les yeux. Le combat fut très violent. Les singes parvinrent à lui plonger un bambou acéré dans le cœur. Il en coula de la graisse.
la princesse se précipita et recueillit la graisse du cœur du dragon dans un petit pot et s'enfuit. Elle marcha encore de longs jours. Elle parvint au bord d'une mer inconnue. Une femme qui reprisait des filets sur le rivage, la voyant perdue, lui demanda où elle voulait aller. « Là où demeure le prince Sabre. » « Ah, vous le trouverez dans l'île du roi, son père, au-delà de la mer aux poissons d'argent. » La princesse chercha longtemps comment elle pourrait atteindre ce mystérieux royaume. Un jour qu'elle désespérait d'y parvenir, elle vit tout à coup un poisson qu'une vague plus forte que les autres avait rejeté sur le sable. Il tentait en vain de rejoindre le large. Voyant qu'il allait mourir, la princesse le prit dans ses bras et, avançant dans les vagues, le remit à l'eau. Le poisson lui dit « Je sais que tu souhaites aller au royaume du prince Sabre. Si tu le veux, je peux t'y conduire. Monte sur mon dos et accroche-toi solidement à mon cou, les écailles sont glissantes !» La princesse n'eut pas plus tôt escaladé le dos d'argent qu'elle se retrouva en pleine mer. Bientôt, elle distingua le rivage du Nil. Le poisson l'y laissa. Elle prit congé de sa monture et marcha jusqu'au palais du roi. Le palais tout entier pleurait déjà la fin du prince Sabre. Depuis de longs mois, il paraissait sans vie. Sous son habit de moine mendiant, la princesse n'eut aucune peine à se faire introduire auprès du souverain. Elle prétendit avoir appris d'anciens sages l'art de guérir toute maladie. Le roi, qui avait en vain consulté les médecins du royaume, voyait son fils près de la mort. Alors il n'hésita pas à conduire le moine au chevet du prince. Restée seule avec le malade, la princesse ouvrit le pot qui contenait la graisse du dragon et en frotta le corps du prince. Ceci étant fait, elle ôta la bague d'émeraude profonde que portait le jeune homme à son doigt et elle la mit dans sa poche. Peu après, le malade se leva, guéri. Le roi, son père, voulut récompenser le moine médecin, mais celui-ci avait disparu. La princesse avait ôté ses habits de moine et était remontée sur le dos du poisson qui l'avait attendue. Après avoir traversé la mer, elle reprit sa route en direction de son royaume. Elle marcha des jours et des jours. Elle marcha tant que la terre en redevint ronde. Enfin, elle arriva chez son père. Quand elle fut seule dans sa chambre, elle sortit la boîte de lac. Les caractères d'or brillaient doucement dans l'ombre. Elle hésita un instant. Elle ouvrit la boîte. L'éventail était là, aussi blanc que neige, tel qu'elle l'avait découvert la première fois. Elle prit l'éventail. D'un geste rapide, elle l'ouvrit d'un coup sec. Elle avait à peine déployé que le prince Sabre était devant elle. Elle lui tendit alors la bague qu'elle lui avait dérobée. Le prince sut aussitôt que le religieux qui l'avait guéri n'était autre que la princesse qu'il aimait. Déjà tant et tant, le roi du Bengale, averti du retour du prince, ordonna qu'on fît de grandes fêtes. Les sœurs de la princesse n'y parurent point. Au moment de s'y rendre, elles avaient ouvert leur coffre pour se faire belles, mais ceux-ci étaient vides. La robe du soleil, la robe de lune, le manteau de nuit, la ceinture d'eau, la couronne de feu, tout avait disparu. Elles quittèrent la cour et l'on n'entend plus jamais parler d'elles. Et voici comment se termine ce joli conte, l'éventail magique. Ah, messieurs, mesdames, aimeriez-vous venir sur le sofa d'une belle qui a ouvert son éventail magique? Eh bien, notre émission est terminée. Merci de l'avoir écoutée. Et à la semaine prochaine, car ça en vaut la peine.